Bonjour, je m'appelle Emigail Gagné et je suis votre chamane. On est déjà rendu au 11e épisode et j'ai l'impression que c'est le temps de passer vraiment aux choses sérieuses parce que je dirais depuis le début, j'ai le sentiment de tourner un peu autour du pot, j'avance un peu. En même temps, il y a des épisodes dont je suis assez fière qui ont aussi créé des réactions chez les auditeurs, les gens qui sont entrés en contact avec moi suite à l'écoute, qui m'ont dit que ça les avait aidés à réaliser des choses, à réfléchir sur leur vie, sur certains concepts, certaines perceptions qu'ils ont. Vous savez que le début du processus du podcast était une sortie de garde-robe, donc pour moi c'était très gros et je prenais le temps d'apprivoiser les sujets dont j'allais parler entre chaque épisode. J'avais toujours cette espèce de hantise avant d'enregistrer où je me disais « mais est-ce que je vais vraiment parler de ça? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que j'ai raison de parler de ça? Est-ce que je suis complètement à côté de la traque? Est-ce que je fais ça tout simplement pour moi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose à donner aux gens à partir de ça? Est-ce que ça va servir aux gens? » Ce qui est très important parce que je verrais pas l'intérêt de faire ce podcast-là à partir de mon propre narcissisme et... Donc, c'est vraiment d'entrer en contact avec les gens, je le répéterai toujours. Donc, en fait, le sujet d'aujourd'hui va porter sur le rôle de médium. Donc, je vous ai déjà dit que, je vous ai dit, je crois avoir des aptitudes de médium et tout, et en fait, j'en doute pas une seconde. Par contre, je suis toujours en train de chercher un peu comment identifier quels sont les dons principaux que j'ai par rapport à ça, et je tiens à dire que plusieurs médiums le disent, et je suis d'accord avec ça, nous avons tous ce potentiel-là. On parle environ de 6 sens, mais il y en a 4 qui sont plus connus et plus communs. Donc, on parle de la clair-entendance, ou si la clair-audience, c'est la même chose. Donc, il s'agit d'entendre des messages, c'est assez connu. Et l'autre qui est très connu, c'est la clairvoyance, c'est celui qui est le plus populaire. On va appeler les gens des voyants à ce moment-là. Donc, la voyance, c'est le terme qu'on connaît le plus au niveau de la médiumnité. Il reste après ça la clair-sentience, donc le fait de ressentir, et il reste la claire connaissance. La claire connaissance est différente de la claire entendance ou de la claire audience parce qu'en fait, on n'entend pas les mots. On n'entend pas les mots comme si on avait un messager à l'intérieur de nous. On sait. On sait tout simplement quelque chose. On sait une information, tout à coup quelque chose arrive dans notre esprit et on sait que c'est vrai. On est certain que c'est vrai. Après, si on se met à douter avec notre esprit rationnel, ça, c'est possible qu'on finisse par se dire que c'est pas vrai, mais au départ, on sait avec cette charge-là que le message qui vient avec est vrai. Je vais commencer par vous parler surtout de la clair-sentience, puisque c'est mon don le plus présent. Le but de cet épisode-là, c'est pas de vous raconter ma vie par rapport à ça comme j'ai pu le faire dans d'autres épisodes. C'est vraiment de vous donner des trucs et en me prenant comme exemple, mais de focusser beaucoup sur le fait que je veux vous partager en fait comment moi je vis avec ça pour vous aider. Je suis pas au summum de comprendre tout ça. En fait, je commence à peine à vraiment mettre les pieds dedans et à assumer le fait que je vis avec cette perception du monde depuis toujours, en fait, mais avant, je croyais que ça venait de moi. Alors, je suis à peine en train de changer définitivement cette perspective-là. J'ai pensé à certains moments que ça pouvait être que je ressentais les autres personnes. Il y a un certain moment où j'en étais convaincue, mais de faire le changement vers vraiment dire « ok, je ressens les autres, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment est-ce que je peux travailler avec ça », ben c'est en ce moment que ça se passe. Donc, c'est sûr que cet épisode-là, je pourrais en refaire un autre dans quelques mois, quelques années, où il s'agira vraiment de vous partager une expérience plus solide, mais pour l'instant, je pense que pour tout débutant qui pense avoir un don de clair-sentience, ça va vous aider. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que je vous en parle. Alors, une chose qui est super importante, quand vous prenez conscience que vous êtes clair-sentient et que parfois vous êtes absorbé par une émotion, ce qui est super important, c'est de ne jamais penser que vous êtes déconnecté de votre « higher self » qu'on appelle en anglais, donc de votre « moi supérieur » ou en d'autres mots, votre âme ou votre source. Donc c'est toute la même chose en fait, quand on parle de la source, on parle de votre âme. De jamais penser que tout d'un coup... Admettons que vous êtes capable de canaliser votre âme, que vous êtes capable de vous sentir pleinement dans l'amour, et d'avoir, moi j'appelle ça avoir les mots justes. Quand je suis alignée sur mon âme, je suis dans mon cœur, donc j'ai pas de problème à bien agir avec les gens et à leur donner une parole que je considère juste et claire, donc qui va les aider en fait. Alors à ce moment-là, je me sens très forte en fait et je suis fière aussi de cet état-là. Mais quand on tombe dans des moments de clair-sentience un peu déséquilibrés en fait, on peut être très vulnérable. Ce qui est super important aussi, c'est de ne pas résister à cet état-là parce que si on résiste à ce qu'on ressent, on est en train d'empirer profondément les choses et de s'enfermer d'une certaine façon dans cet état-là. Donc, le fuir, c'est l'alimenter. Il faut absolument comprendre ça. Et je vous dirais, la première étape que j'ai réussi à faire dans ce processus-là a été tout simplement d'admettre que je me sentais vulnérable parce que j'étais complètement submergée par le message que je recevais ou l'émotion que je ressentais, que je recevais. Le mot « recevoir » est très intéressant parce que on sait qu'on le ressent. Mais quand on parle de clair-sentience, ben on ne fait pas juste se ressentir, on reçoit. On reçoit une information. Donc ensuite, c'est d'apprendre à la traiter. Alors, c'est ça. J'étais consciente que je vivais quelque chose, mais je ne savais pas quoi faire avec. Alors, la première étape, peut-être pour vous aussi, c'est tout simplement d'admettre que vous êtes submergé, que vous êtes vulnérable à ce moment-là. Ça va vous aider tout simplement à accepter cet état-là au lieu d'essayer de le fuir. Donc, même pour vos proches, moi, je devenais désorganisée dans des moments comme ça. Je me forçais à fonctionner, mais au fond, j'étais pas là. Je me rappelle mon dernier emploi, quand ça m'arrivait, des grosses périodes de montée d'émotions comme ça, je me sentais plus moi-même. En fait, je me jugeais beaucoup parce que j'étais plus à mon plein potentiel et j'en étais très consciente. Alors, je me sentais mal. Et ma façon de faire la paix avec ça était tout simplement de dire à mon entourage ou de dire à mes employeurs, qui étaient des personnes très compréhensives, que j'étais vulnérable cette journée-là, que je me sentais facilement bousculable et que j'étais bousculée. Et bien, ça voulait pas dire que je me coupais de tout et que je m'en allais. Ça voulait tout simplement dire que je prenais le temps de leur présenter mon état de la journée pour éviter les surprises. Ça voulait pas dire non plus que je leur disais « Ah, mais sois doux avec moi, je suis vulnérable. » Tu sais, j'imposais pas rien à personne, mais je les prévenais d'avance, en fait. Alors ça peut aider aussi des conflits et ça peut vous aider vous-même à tout simplement accepter votre état et au lieu de lutter. Et ça va vous apporter une certaine paix. Donc, même si peut-être vous ressentez encore l'émotion, vous allez pouvoir être en paix avec ça. Donc ça, c'est une chose. Comme je vous dis, même quand vous êtes submergé, considérez toujours que vous êtes connecté à votre âme. Parce que moi, j'ai l'impression que l'émotion crée une espèce de mur, en fait, et qu'à ce moment-là, presque tout ce que j'ai, c'est mon ego, l'émotion, mon enfant intérieur qui est en crise, mon rationnel est déséquilibré, et la connexion à l'âme est difficile, la connexion au cœur est difficile. Donc, savoir faire la part des choses, de ce qu'on ressent, en fait, de pas essayer de tout d'un coup tout comprendre ou de se juger là-dedans ou de penser qu'on est faible ou qu'on est totalement mal adapté. Donc, en fait, vraiment pas s'exclure par rapport aux autres quand on ressent des émotions vives. C'est super important. Et non seulement ça, mais il faut pas le voir comme un défaut. C'est important aussi de ne pas chercher à se justifier. Si vous demandez à quelqu'un d'autre de vous comprendre, si vous êtes effectivement clair-sentient, ça risque d'être complexe. Puis ce qui est important, c'est que les personnes proches de vous, si elles ne peuvent pas comprendre pleinement la profondeur des émotions que vous vivez, qu'elles peuvent au moins respecter ce que vous vivez sans chercher à vous changer. Ce qu'elles peuvent faire, c'est vous accompagner dans une meilleure sécurité, je dirais. Parce que, par exemple, moi, pendant longtemps, ça me démolissait de ressentir ça. Donc, c'est sûr que juste d'avoir quelqu'un qui me dit, peut-être pas, qui me dit tout est correct, parce que, en fait, ça fait juste une espèce de précipice entre ce que je ressens et de me faire dire, oh, mais non, mais la vie est belle, c'est comme faire rire de moi, à la limite, là. Ben, à l'époque, maintenant ça va, là, j'ai réussi à faire la part des choses. Mais juste d'avoir quelqu'un qui est là, qui vous juge pas, qui cherche pas à vous changer, mais qui cherche pas non plus à amplifier ou à dramatiser votre état. C'est ça que je voulais dire au fond. Quelqu'un qui est pas déstabilisé ou qui cherche pas à vous mettre dans une case de quelqu'un qui a un problème. Parce qu'au départ, si on n'a pas appris par rapport à notre enfance à dealer avec des émotions très fortes, eh bien, on va le traîner dans l'âge adulte. Et c'est normal que les gens soient mal à l'aise par rapport à ça si on a des moments où c'est très, très intense. Donc, je parle surtout des gens qui sont dans la proximité avec nous, donc la famille, votre amoureux, votre amoureuse. Mais juste, surtout, j'espère, à la suite de l'écoute de cet épisode-là, si vous êtes clairsentient, de juste pouvoir leur dire, écoute, en ce moment, je ressens une émotion intense, de pouvoir vous le dire à vous-même aussi. En ce moment, je ressens et je reçois une émotion intense. Je sais que c'est juste un moment. Je vais naviguer à travers cette émotion-là. Mais ce qui est important, c'est que, encore une fois, si vous bloquez, vous n'arriverez pas à passer à travers, sauf peut-être en vous changeant les idées. Mais je vous dis, en faisant ça, je pense pas qu'on arrive vraiment à évoluer par rapport à cette perception-là et cette sensibilité-là. Donc vraiment, la seule façon, à mon avis, de vivre sainement avec la clairsentience, c'est d'apprendre à travailler avec. On peut pas tout simplement la mettre à côté. Moi, c'est ce qui m'a menée en partie à arrêter de travailler parce que je la mettais à côté. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont motivée à travailler à la maison et à prendre une pause dont je vous ai parlé précédemment. Je travaillais en fait dans une épicerie biologique et un petit café, mais je ressens tellement les gens que mon état pouvait varier énormément dans une journée et à ce moment-là, ça fait à peine un an que j'ai quitté. Je savais pas comment travailler avec ça. Et encore aujourd'hui, je le découvre. Ce que je veux dire, c'est que si vous repoussez cet état-là, il va revenir. Donc, c'est vraiment d'apprendre à travailler avec et surtout de vous sentir en paix par rapport à ça. Moi, j'ai fini par comprendre à un certain moment que probablement que je ressens des gens qui vivent près de moi, près de mon appartement. Donc, un jour, j'ai compris que peut-être l'hyperphagie, les grosses crises d'hyperphagie que j'avais et l'anxiété que j'avais venait pas nécessairement de moi complètement. Et que peut-être j'avais déjà cette sensibilité-là, cet état-là, mais qui était amplifié par quelqu'un d'autre qui vit près de moi. Quand j'ai pris conscience de ça, déjà mon état a changé beaucoup. Donc j'ai pas cherché à me protéger de cette personne-là non plus, en mettant un bouclier ou en coupant le lien comme on lit souvent sur Internet. J'ai décidé de lui envoyer de l'amour à la place. Parce que c'est de ça dont on a le plus besoin quand on est dans une crise comme ça. Et vous savez, j'ai décidé justement d'arrêter de faire des recherches sur Internet pour prouver que je suis clairsentiente. J'ai fini par comprendre que je le suis à fond la caisse. Alors maintenant, je fais des recherches pour voir comment travailler avec la clairsentience dans le fond. Et ce matin, justement, j'ai trouvé un article de, ça c'est Loner Wolf que ça s'appelle. C'est un blog qui est très riche. Ça roule depuis, je pense, déjà quelques années. J'ai vu qu'il y avait un couple derrière ça qui travaillait ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres collaborateurs, mais c'est absolument extraordinaire. C'est en anglais, donc je vais en profiter pour vous traduire un peu en général. Mais on dit justement que de penser qu'on doit se protéger parce qu'on est hypersensible, qu'on doit bloquer, qu'on doit mettre un bouclier, que tout ça, en fait, ça revient à nourrir une espèce de sentiment de victime et de faiblesse. Et je peux dire que je suis en accord à 100% avec ça, en fait, de croire qu'on doit se protéger. Ça nourrit une perception, en fait, où on se sent attaqué, toujours, par ces sentiments-là. Donc, on ne pourra pas avancer. On peut le faire si on est très vulnérable et qu'on est dans une posture dans notre vie où on n'a pas la solidité, on n'a pas la base qui nous permet de découvrir ce don-là. Mais à partir du moment où on est quand même supporté, où on peut peut-être pas dans notre entourage de proximité, je vous le souhaite, d'avoir des gens autour de vous qui puissent vous aider là-dedans, mais sinon, par rapport à un groupe de soutien, surtout sur Facebook ou des forums sur Internet, on en a de plus en plus. français, j'ai pas eu le temps de regarder. J'ai vu qu'il y avait des choses pour les empathes, mais je sais pas à quel point est-ce qu'on travaille le don. J'ai l'impression que c'est beaucoup pour se comprendre entre personnes hypersensibles, tout comme on le fait pour la douance d'ailleurs, puis il y a beaucoup de gens doués qui sont hypersensibles. Donc on se retrouve dans des groupes sur la douance ou des pages sur la douance à parler beaucoup d'hypersensibilité et d'incompréhension par rapport aux autres et des autres. Donc je vous dirais d'avoir un groupe. Je vous disais que je voulais créer une communauté autour de la chamane sur Facebook. J'ai décidé que le premier groupe que j'allais créer était vraiment au niveau de la médiumité. Donc, on va pouvoir parler de moi, ce que je connais surtout, c'est la clairsentience, mais j'ai exploré un peu les autres aussi. Donc, je vais le lancer dès maintenant, en fait, avec cet épisode-ci. Alors, si vous n'avez pas d'endroit où aller pour ça, vous êtes les bienvenus sur la page de la chamane. Le groupe va être affiché. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens à cet article-là, qui propose une technique qui revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en fait, il y a quatre étapes très simples pour arriver à bien vivre avec la clairsentience. Donc, en fait, il s'agit de s'abandonner à cet état-là. Donc, en anglais, c'est surrender. Donc, d'accueillir. Ensuite, d'observer. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est du stress, de l'anxiété, de la peur, de la peine, de la joie même? On peut ressentir la joie des autres. On est profondément empathique. Donc, on va ressentir tout, ce qui est positif ou négatif. C'est sûr que la joie va tout simplement nous élever et nous rendre heureux. Donc, on ne va pas nécessairement s'en préoccuper. Mais si vous commencez à observer, vous allez voir que vous ressentez autant la joie que la peine ou la peur. Donc, ensuite, plus vous allez observer, plus vous allez pouvoir voir aussi les changements brusques qui peuvent arriver dans une journée et identifier d'où ça vient. Donc, si vous venez à un point où vous êtes assez conscient pour voir que c'est tout simplement l'arrivée de quelqu'un qui vous fait changer d'état, ben, vous pouvez vous demander si vous avez une raison de ressentir une émotion par rapport à cette personne-là. Parce que c'est, vous savez, c'est difficile. Pour moi, c'est ça le plus complexe, c'est de faire la différence entre mes propres émotions, parce qu'on a tous des émotions qui nous appartiennent à nous, et celles des autres. Et les émotions qui sont créées par du vécu par rapport à quelqu'un, ou les émotions que je ressens de quelqu'un. Donc, et encore, je suis encore en train de démêler ça. Ça, c'est de plus en plus clair maintenant que j'accepte mon don, et je pense que pour vous, ça va faire partie de votre processus à vous aussi, si vous êtes clairsentient ou hypersensible ou empathique. Ça va être d'accepter votre don et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à faire la différence en travaillant sur vous. Ça demande à se connaître, à travailler, à se découvrir. Donc, se comprendre, s'écouter, s'aimer. Si on se considère tout simplement trop sensible, on ne pourra pas aller au-delà de ça. Donc, il faut enlever tout ce qu'on, peut-être on s'est fait dire dans notre enfance. Tu es trop sensible, tu pleures pour rien, tu es tout en train de chialer. Je suis allée dans le sens de pleurer, pleurnicher. Donc, il va falloir enlever tous ces conditionnements-là qu'on s'est fait mettre dans la tête, comme quoi notre hypersensibilité, en fait, est quelque chose de dérangeant, quelque chose de mal, quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc, il faut absolument transformer ça en force qui va nous permettre de comprendre notre entourage et d'agir, en fait, d'une façon, pas de s'adapter à eux, mais plutôt de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et si on arrive à ressentir ce que quelqu'un vit, ben cette personne-là n'a même pas besoin de parler. Encore une fois, ça demande à travailler beaucoup la compréhension de ce qu'on ressent. Donc, d'enlever des filtres. Par exemple, moi, si je ressens quelque chose, je vais vous donner un exemple que je fais. Si j'ai un raz-de-marée d'émotions, je ne sais pas si ça vient de moi ou de quelqu'un d'autre. Si mon changement d'émotion est très brusque, vous voyez, avant, j'avais tendance à croire que c'était moi qui étais totalement instable. Il n'y a rien à faire si on pense comme ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à se contrôler, entre guillemets, dans le sens où on apprend à se calmer, on apprend à respirer, on apprend à s'observer. Donc ça, c'est la base, en fait, du travail avec les émotions. Donc, lire sur l'intelligence émotionnelle va vous aider beaucoup. Faire de la méditation, travailler votre pleine conscience va vous aider. Donc, vous auto-observez Mais à partir d'un moment, c'est ça, on ressent une émotion très forte. Et là, c'est d'arriver à voir, déjà, on essaie de la calmer un peu, d'arriver à voir si elle vient de nous ou de quelqu'un d'autre. Ce que je fais, c'est que je fais de l'écriture automatique. Ça se peut que ce qui sorte soit affreux, soit insultant, soit sombre ou honteux pour vous, que ce soit trop fort, trop pur dans le sens d'un jus concentré d'une émotion. Donc, si ce que vous ressentez, c'est une peur intense ou une dépréciation intense, faites-la sortir sans la juger. Assurez-vous peut-être de ne pas laisser traîner ce que vous avez écrit parce que ça risque de vous mettre dans l'embarras. Surtout si c'est juste une émotion que vous avez ressentie mais qui ne vous appartient même pas. C'est assez important. Donc, ensuite, vous pouvez vous débarrasser des papiers ou les ranger en sécurité. Donc, une fois que l'émotion forte est passée, vous pouvez y voir plus clair. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais réécrire. Donc, comme j'avais dit dans un épisode il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, je vais enlever les filtres, comme ça, les couches d'émotions. Donc, au début, c'est très vif. Ensuite, je vais réécrire et réécrire. Parfois, ça me prend 2, 3, 4 écritures pour arriver à trouver le message. Et ça peut me prendre 1 heure, ça peut me prendre une demi-heure, peu importe, ça peut me prendre une journée si je résiste. Mais si je m'abandonne et que je laisse sortir l'émotion, justement sans censurer, rapidement, je vais arriver à voir ce qui se cache derrière. Et je l'ai vécu récemment. J'avais une décision importante à prendre avec mon amoureux et on s'est parlé au téléphone. Et quand j'ai raccroché, ça allait super bien pendant qu'on se parlait au téléphone. Mais quand j'ai raccroché, j'ai tout simplement, je me suis connectée à son émotion en fait. Et j'ai compris. En fait, au départ, je pensais que ça venait de moi. Je pensais que c'était moi qui paniquais, qui capotais. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi mon émotion avait changé tout d'un coup. Je pensais que j'avais juste une peur intense. Puis j'ai pris le temps de trier, trier, jusqu'à me rendre compte que je ressentais quelque chose que lui ressentait, en fait. Ben, j'arrivais à comprendre son état. Donc, ça m'a aidé, en fait. Ça nous a aidé ensemble à voir clair dans la décision qu'on devait prendre. Ben, lui avait déjà fait sa part des choses, en fait, dans la décision. Mais moi, ça m'a permis de l'accompagner là-dedans et de j'ai, je pense que je suis arrivée à la réalisation en même temps que lui, en fait. Parce que j'ai réussi à me mettre à 100% dans sa peau, dans ce qu'il ressentait. Peut-être pas à 100%, mais en bonne partie. Vous allez trouver les façons qui fonctionnent pour vous. Et si vous avez envie de m'en parler, ça va me faire plaisir. Parce que, comme je vous dis, la clairsentience, c'est mon don de médiumnité numéro 1. C'est celui qui est le plus fort. C'est possible à partir du moment où on en accepte un et qu'on travaille avec, les autres sens peuvent ensuite aller se placer à travers ça. Donc, il y a des époques, surtout à travers l'illumination dont je vous ai parlé de 2009, où j'avais énormément de claire connaissance. J'ai toujours eu de la claire connaissance, j'en avais quand j'étais petite. C'est mon deuxième don, au fond, le plus prononcé. Et à ce moment-là, j'en avais beaucoup dans le sens où je savais, comme je vous avais dit déjà raconté, je savais quoi dire aux gens, je savais quels étaient leurs besoins et comment ils se sentaient. Donc, je vivais à la fois la clairsentience, mais sans que ça me rentre dedans, parce qu'à ce moment-là, j'étais connectée à mon âme et je la quittais pas. Donc, j'étais toujours dans cet état-là. Alors, je ressentais les autres, mais sans avoir à rester pris avec l'émotion, ça coulait. Et ensuite, c'est ça, il y avait la claire connaissance qui embarquait là-dedans, qui me permettait d'avoir une information. Donc, en acceptant vos dons et en les voyant justement comme des dons et comme une magnifique opportunité d'apporter quelque chose au monde et à vous-même, vous allez pouvoir vous connecter plus à votre âme. Donc, vous allez moins sentir la déconnexion dont je vous parlais au début de l'épisode. Vous allez moins être dans l'ego ou le jugement ou le cerveau rationnel qui essaie de comprendre tout ça et qui se dit que c'est complètement stupide de se sentir comme ça. Donc, vous allez pouvoir vous connecter de plus en plus à votre âme et avoir confiance que cet état-là vous sert à quelque chose. Donc, pour ça, je dirais que priez, demandez le support de vos guides tout en spécifiant que vous souhaitez être éclairé vers la solution, vers une prise de conscience en lien avec votre état, ça va vous servir énormément. Donc, dites pas je ne veux pas ressentir ceci, ou je ne veux pas souffrir, ou je ne veux pas de cette émotion, parce que c'est super important. L'énergie, l'univers comprend pas la négation. Il n'y a aucune négation au niveau énergétique. Donc, si vous dites je ne veux pas être pauvre, ou peu importe, c'est un exemple ridicule, mais vous allez attirer à vous des expériences qui vont vous donner des difficultés financières. C'est la loi de l'attraction au fond. Donc, au niveau énergétique, la négation n'existe pas. Ce qui veut dire que ce que vous dites, si vous dites votre peur, vous allez recevoir votre peur. Mais si vous demandez d'être aidé, si vous demandez qu'on vous montre la solution, qu'on vous accompagne, qu'on vous permette une prise de conscience, qu'on vous montre l'issue. Donc, choisissez les mots que vous voulez, mais allez vers le positif, vers le constructif. Donc, demandez à vos guides de vous accompagner là-dedans, de vous montrer le message qu'il y a derrière cette émotion. Et c'est important que vous ayez confiance que vous êtes guidé. C'est important parce que quand on veut travailler au niveau spirituel, il faut comprendre tout ce que ça implique. Donc, d'avoir une vue d'ensemble autant qu'on peut parce qu'on est dans l'intangible, mais de comprendre qu'on a tous des guides, c'est une base. Si on veut travailler comme médium, si on veut travailler avec l'esprit, en anglais, on dit « work with spirit ». Donc, travailler, en français, on dirait que j'arrive pas à trouver quelque chose d'aussi fort. Donc, travailler avec l'esprit ou... parce que spirit, c'est pas la même chose en anglais ou en français. Mais c'est ça, c'est que il y a un moment où il faut tout simplement accepter et se laisser aller, accueillir l'idée qu'on a tous des guides. Et si vous avez un blocage par rapport à ça, je vous invite à lire là-dessus ou à aller voir justement le travail de Jean-Marie Muller qui, moi, m'a... J'ai écouté une conférence dans le cadre du sommet de la conscience et c'est ce qui m'a permis en fait de comprendre beaucoup plus le principe du travail avec les guides. Et il disait qu'ils sont toujours là. Ils vont peut-être partir un peu en périphérie si on leur demande pas, mais si on leur demande, ils vont être avec nous et ils sont là pour nous aider. Et moi, ces temps-ci, en fait, c'est un travail que je fais très conscient. J'écris à mes guides, j'écris des demandes. Donc, je suis même pas dans les affirmations positives. Oui, c'est des demandes positives, c'est constructif, c'est ça que je veux dire. Mais je leur demande vraiment de m'aider. Donc, je leur dis, je veux atteindre, par exemple, une capacité financière qui va me permettre d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Donc, pas de dire, ah, je veux faire mes projets, donc je veux de l'argent pour faire mes projets, mais c'est vraiment... Nos guides, chacun de vos guides sont là pour vous aider à vous accomplir, pour vous aider à toucher la mission que vous avez à accomplir. Donc d'abord, de leur demander de l'aide, peut-être pour vous éclairer sur quelle est votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici réellement, vous aider à prendre conscience de ça, à l'assumer, à vous ancrer dans votre mission, et ensuite leur demander de mettre à votre portée tous les outils nécessaires à accomplir ce que vous avez à accomplir, à être ce que vous avez à être solide et à ne pas vous encombrer de ce qui est superflu. On a tous quelque chose à apprendre. Parfois, ça peut être des choses très simples. Il y a des gens qui peuvent s'incarner simplement pour apprendre la douceur ou l'humilité. On n'a pas tous nécessairement une grosse mission de changer le monde. On change tous le monde à notre façon, de toute façon, dans notre quotidien. Mais c'est ça, c'est de demander à nos guides de nous accompagner là-dedans et ils sont toujours là, c'est ce que je voulais dire. Alors, travailler avec eux, c'est tout simplement d'accepter qu'ils sont là et de leur parler et de s'attendre réellement à ce qu'ils nous répondent. Et parfois, ils nous répondent de toutes sortes de façons. C'est vraiment la claire entendance. C'est pas un don que j'ai particulièrement. Ça m'est arrivé parfois, mais ce qui m'arrive, c'est des synchronicités. C'est des symboles. Parce que mes guides savent que je suis attachée à certains symboles. Si je leur demande des 33 parce que c'est mon nombre en numérologie, ben, quand c'est important, quand c'est des choses qui doivent attirer mon attention, je vois des 33. Et j'apprends à travailler avec eux par rapport à ça. Je leur demande des suites de nombres, je leur demande des 33. Parfois, juste quelque chose que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui va apparaître à un certain moment, une couleur ou peu importe. Alors, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous parle à nous. Puis, avec eux, on apprend à communiquer de toutes les façons possibles. Ça peut être des ressentis. Moi, je leur demande souvent, avant une rencontre importante, la première fois que j'ai fait ça, c'était avant de voir ma psychologue. J'avais prié pour qu'elle soit, elle, la meilleure version d'elle-même. pour que je sois en contact avec son higher self, dans le fond, son âme, que ce soit son âme qui me parle. Parce que ça m'intimidait d'aller voir une professionnelle, je savais pas comment elle allait me cerner et tout. Donc, j'avais demandé ça. Alors, on peut toujours faire ça avant une rencontre importante ou avant de faire quelque chose qui est important pour nous, de prendre le temps de se poser, de s'enraciner, puis de demander à nos guides de nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes et à aller vers la direction où on doit aller. Parce qu'eux savent bien mieux que nous. Je veux dire, ils ont un portrait clair. Ils savent très bien ce qu'on est venu faire ici. Alors que nous, on peut faire beaucoup de progrès, on peut faire beaucoup de travail pour découvrir ce qu'on est venu faire ici avec notre ressenti, notre intuition aussi. Mais eux savent très clairement. Ils ont une image très, très précise. Donc, on peut leur demander. Et plus on va leur demander, et on va être en paix avec ça, et on va être confiant, et on va être à l'écoute de la réponse, plus on va apprendre à travailler avec eux. Alors, vous pouvez aller voir un peu des vidéos de Jean-Marie Muller sur YouTube. Je pense que vous allez pouvoir trouver des trucs aussi par rapport à ça, ou sur son site internet aussi. Donc, c'est très intéressant pour approfondir au niveau des guides. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui enseignait très bien à ce niveau-là. Alors, je vais revenir à la clairsentience. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je vais me nettoyer. Donc, énergétiquement, en fait, il y a plusieurs façons. L'eau, en fait, l'eau coule. Donc, se nettoyer le corps va aussi nettoyer l'énergie. Ça peut être de prendre un bain d'eau salée. C'est un grand classique pour les médiums, pour se grounder, mais aussi pour se nettoyer énergétiquement. Donc, il y en a qui vont se prendre un bain au sel d'Epsom à toutes les semaines, ou même plus souvent au besoin. Le sel d'Epsom, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, prenez du sel de mer, tout simplement. Moi, j'ai du sel de mer bien normal. Quand j'ai du sel d'Epsom, c'est ça que j'utilise, mais bon, parfois, j'ai juste du sel de mer, donc je vais avec ça. Faire brûler de la sauge, et c'est quelque chose qui est utilisé dans la tradition amérindienne et chez d'autres peuples depuis des centaines d'années. C'est extraordinaire. J'ai commencé à l'utiliser pour de vrai en entrant dans l'année 2018. Maintenant, c'est plusieurs fois par semaine. Ça arrive souvent que je vais passer mon appartement au complet à la sauge. Et je prends le temps vraiment d'en envoyer partout, dans toutes les pièces, dans tous les coins. On peut se le faire à soi-même. On va se faire le devant et le derrière du corps. Si vous portez des lunettes, c'est important que vous les enleviez. Ça, c'est dans la tradition amérindienne que moi, j'ai appris. On enlève les lunettes parce que ça crée une vitrine, en fait. Ça crée un mur. Donc, si vous voulez vivre vraiment la purification, on enlève les lunettes. J'ai parlé du bain, il y a la douche aussi. Moi, je vais prendre une douche ou dans laquelle, en fait, je vais prendre le temps de me déconnecter dans le sens où je vais déconnecter mon cerveau. Et dans un autre sens, je vais aller me connecter à la source. Donc, je vais aller me connecter à mon âme. Ça se fait naturellement pour moi dans la douche. Donc, vous allez voir, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Je laisse vagabonder mes idées à ce moment-là, puis je tombe dans ce qu'on dirait le cerveau créatif. Donc, je me détends. Ça me fait un reset aussi. Ça me recharge au niveau de mon énergie. Donc, si je me sens lourde, ça arrive. C'est pas rare que j'aille prendre une douche dans le milieu de la journée parce que j'arrive pas à fonctionner. Je commence à me sentir très lourde. Donc, ça me rafraîchit en même temps. Aller prendre une marche, ça va fonctionner aussi. C'est ça, prendre le temps d'aller respirer dehors ou juste prendre des grandes inspirations, expirations, plusieurs fois en fait. Je pense que c'est 6 fois que ça prend minimum. T'sais, on dit aux gens, prends une grande inspiration, mais c'est pas suffisant. Ça va vous aider à sortir le stress. Il y a aussi des chants. Donc, en fait, ça, c'est, moi, c'est quelque chose que je fais instinctivement, mais ça va, si vous le sentez, si c'est quelque chose qui vous parle, de chanter. Vous pouvez chanter une chanson que vous aimez, là, mais en fait, c'est vraiment pas ça, là. Si chanter des chansons vous aide, c'est parfait. Mais moi, je fais tout simplement un chant automatique. Donc, comme on ferait l'écriture automatique, je fais des chants automatiques. Tout ce que je fais, c'est travailler avec les vibrations. Donc, je vais commencer souvent avec des vibrations qui sont très basses. Je vais chanter des sons qui sont très bas. C'est très chamanique. Et je vais jouer selon, en fait, où je ressens, parce que ça va équilibrer les chakras, en fait. Donc, je vais faire vibrer où je ressens que ça fait du bien. Donc, je fais bouger ma voix. On sait que ceux qui ont fait un peu de chant, on a la voix du ventre, on a la voix de la gorge, on a la voix de la tête. Donc, on fait promener la voix comme ça. Et ça va jouer quand même sur plusieurs chakras. Ça va jouer sur le plexus solaire, même le chakra sacré qui est le deuxième chakra, le plexus solaire qui est le troisième chakra, le chakra du cœur qui est le quatrième, le chakra de la gorge qui est le cinquième et le chakra du troisième œil qui est le sixième. Donc, on va même la couronne, on peut même faire vibrer le dessus de la tête. Donc, il y a pas mal juste le chakra de base, le premier chakra, qui peut-être est plus difficile à faire vibrer comme ça. Mais pour ça, il suffit d'aller vous ancrer les deux pieds dans le plancher, en fait, de vous prendre une position très solide et vous êtes déjà en train d'ancrer votre premier chakra. Comme ça, juste en le ressentant. Donc, vous êtes encore dans la clair-sentience. Vous ressentez avec votre voix où ça doit aller vibrer. Ça peut me prendre environ 20 minutes, puis souvent, je suis purifiée. C'est extraordinaire. Ça me recentre, ça me remet justement en connexion avec mon âme. Sinon, juste faire vibrer votre corps en bougeant. Ça peut être tout simplement, on appelle ça shaker en bon québécois, de vous tenir debout et de faire bouger votre corps comme si vous étiez en transe, en fait, là, comme on voit quand on est possédé à la télé. En fait, ça va juste vous aider à faire bouger l'énergie dans votre corps, à faire bouger la lymphe aussi. C'est sûr, idéalement à faire si vous êtes seul ou si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous jugera pas. Dansez de toutes les façons possibles, que vous aimiez danser ou non. Si vous êtes seul, on s'en fout. Que vous soyez ridicule, ça va peut-être juste vous faire rire, ce qui fait énormément de bien aussi. Donc, rire. Même la thérapie du rire, en fait, qui consiste à rire naturellement, en fait, naturellement, à s'obliger à rire jusqu'à ce que le rire devienne naturel, puisqu'on finit par rire de notre rire. Donc, il y a ça qui fait du bien. Jean-Marie Muller, que j'ai découvert la semaine passée, qui est un médium et un chaman aussi, lui, justement, parle énormément de ça, la danse, le chant, le rire, le jeu. Donc, de faire bouger notre corps. Alors, lui, justement, faire une activité physique, même moi, le vélo, la marche rapide m'aide énormément. Donc, il parle de ça, en fait, parce que c'est ce qui va nous ramener dans notre enfant. Et il explique que l'enfant est, lui, à la base, son essence est connectée à l'au-delà, à l'intangible. Peut-être pas l'au-delà, mais à toute l'énergie qu'il y a autour de nous, qu'on appellerait l'intangible, à l'énergie, au fond. Donc, l'enfant est connecté à ses guides. L'enfant, a les perceptions ouvertes. Donc, à partir du moment où vous vivez comme l'enfant, donc vous vous libérez, vous jouez, vous arrivez à danser, à chanter, à bouger, à avoir l'énergie d'un enfant, ben vous allez tout simplement être en paix avec ce que vous avez comme don de médium ou ce que vous ressentez, parce que l'enfant, ben, a une légèreté aussi naturelle, mais aussi très ouvert à tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais pour arriver à me sentir mieux. Puis souvent, en fait, à moins que je sois dans un état vraiment très intense, ça va pas, je considère pas que c'est une négation de mon état, parce que souvent, ça va juste me permettre d'avoir une meilleure vision de ce que j'ai ressenti. Donc, c'est là que je vais faire les prises de conscience. Il y a aussi les moments où on vit quelque chose de très, très, très intense. Donc, à ce moment-là, en fait, si ce que vous ressentez est par rapport à quelqu'un d'autre, je veux dire, si vous ressentez l'énergie de quelqu'un d'autre, vous devriez être capable, par l'écriture et par la connaissance de vous-même ou par les mouvements, justement, les trucs que je viens de vous donner, vous devriez être capable de comprendre qu'il ne s'agit pas de votre état à vous. Si c'est votre état à vous, parce que si on est hypersensible, on peut avoir tendance aussi à garder les émotions longtemps et on vit tout, en fait, de façon plus intense. Donc, si on est clair-sentient aussi, on a cette force de ressenti qui est très forte. Alors, si on vit une émotion qui nous appartient, c'est important, elle aussi, de l'accepter et de ne pas chercher à la fuir. Un exercice que moi, j'ai beaucoup apprécié récemment, en fait, c'est d'aller faire ce qu'on appelle du shadow work. Donc, en fait, d'essayer d'apporter la conscience dans cet état-là et c'était de travailler, en fait, avec mon enfant intérieur. Je vous ai parlé de Teal Swan quand même à quelques occasions. Un exercice qu'elle propose dans une de ses vidéos qui est How to Heal the Emotional Body, si je ne me trompe pas. Donc, comment guérir le corps émotionnel. En fait, il s'agit de se demander, quand on ressent une émotion particulière, de se demander quelle était la dernière fois où nous avons ressenti cette émotion-là. Donc là, habituellement, on a une réponse assez rapide. Ne cherchez pas à analyser ou prenez la première réponse qui vous vient. C'est la bonne. Si vous ressentez que c'est la bonne, ça va. Ensuite, vous vous demandez quelle était la première fois où vous avez ressenti cette émotion-là. Et c'est là que ça peut se corser parce que si vous avez ressenti ça quand vous étiez bébé, mais ça se peut que vous n'ayez pas le souvenir. Ça se peut aussi que vous l'ayez parce que, en fait, on suppose que même nos mémoires intra-utérines, quand on était dans le ventre de notre mère, on pourrait se reconnecter à ces mémoires-là. C'est des mémoires qui ont été oppressées, en fait, qui ont été cachées dans notre inconscient pour diverses raisons. Mais si vous avez un souvenir où vous étiez bébé, ne le discréditez pas. Si vous avez un souvenir comme ça, c'est que c'est probablement très vrai. Sinon, bien, cherchez le premier souvenir qui vous vient en tête de la première fois où vous avez ressenti ça. Et là, on va vraiment faire un travail avec l'enfant intérieur. Donc, en fait, il s'agit d'aller prendre cet enfant-là dans vos bras ou d'avoir quelqu'un qui va le faire. Donc, vous allez en fait altérer le souvenir, ce qui est un peu spécial, on dirait, mais ça va en fait apaiser cette émotion-là. Donc, d'agir comme vous auriez aimé qu'on agisse à ce moment-là. Vous prenez le temps d'observer cette émotion-là. Qu'est-ce que l'enfant ressent? Qu'est-ce qui se passe dans la situation? Vous prenez le temps de revivre ça un peu, mais restez pas accroché trop longtemps. Demandez-vous comment solutionner ça. Donc, qu'est-ce que cet enfant-là aurait eu besoin? Moi, j'avais un souvenir où j'avais 10 ans et j'avais été punie dans ma chambre et je trouvais qu'il y avait une grande injustice là. J'étais vraiment très triste. J'avais deux scénarios possibles. Il y en avait un où c'était une sœur ou une cousine qui arrivait et qui m'amenait en virée, là. On sauvait de la maison, en fait. Donc, c'était très plaisant comme idée. Ou sinon, en fait, c'était moi-même, adulte, qui allait prendre mon enfant de 10 ans dans ses bras et, en fait, qui allait dormir avec pour la rassurer. Et le lendemain aussi, j'ai encore pensé à elle et je lui disais, je suis avec toi, je te donne de l'amour. Et ça, c'est vraiment important d'aller travailler toutes vos blessures d'enfant parce que c'est ce qui va vous permettre de vous émanciper en tant qu'adulte. Sinon, on va toujours les traîner parce que la plupart des traumatismes qu'on a vécu enfant, c'est ce qui fait nos fortes réactions de défensive ou nos grandes peines aujourd'hui. Plus on va avoir travaillé là-dessus, moins ça va altérer le travail qu'on va faire. Donc, si par exemple, moi, je sais ça, je vous ai parlé un peu d'anxiété généralisée, chose que je fais de moins en moins, donc à laquelle je m'identifie de moins en moins, mais j'ai eu cette période-là. Et à ce moment-là, en fait, toutes les personnes que je croisais qui avaient de l'anxiété, je les ressentais fois mille. Et je pense que j'en avais peut-être déjà parlé, mais il y a au moins deux personnes qui m'ont dit à un certain moment que c'était des personnes très anxieuses ou qui avaient vécu beaucoup d'anxiété. Et j'ai compris pourquoi j'avais beaucoup de difficultés à être à côté de ces personnes-là. Et je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que je les aimais pas, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi je les aimais pas. Mais c'est parce que je ressentais tellement leur état que ça alimentait ma propre anxiété. Je pensais que c'était moi qui étais anxieuse. Donc, en connaissant aussi quels sont nos points sensibles, ça peut nous aider à comprendre pour pas aller, comment dire, ça va nous éviter de se mélanger dans l'interprétation des choses. Aussi travailler sur l'ego. Jean-Marie Muller parle de l'importance de pacifier notre ego pour justement éviter que l'ego prenne toute la place dans l'analyse des informations qu'on reçoit et qui viennent troubler en fait la qualité d'information. Donc il disait que quand il a commencé comme médium, en fait, il recevait pas des messages assez précis. Il recevait des messages plus universels pour toute la planète ou des paroles qui étaient quand même vagues. Mais à partir du moment où il a travaillé beaucoup plus sur son ego, ben, il a été capable d'apporter des messages très précis pour les personnes. Donc, vraiment d'affiner énormément ses dons, en fait. Je fais une parenthèse. Tout à l'heure, je reviens aux quatre étapes que j'avais trouvées sur le blog de Loner Wolf. Donc, en fait, je disais, c'était se laisser aller dans l'état, ensuite de l'observer. La troisième étape, c'est d'accepter. Comme je disais, de ne pas chercher à lutter. Donc, on observe, on accepte le message, on accepte ce qui est ressenti. Et ensuite, c'est release, donc de laisser aller, de laisser ressortir. Donc, c'est un peu comme on inspire. On accepte ce qui vient. Et quand on expire, on laisse aller. Donc ça aussi, si on veut faire une respiration consciente comme ça, on inspire, on accepte l'état, on laisse entrer. Ensuite, on peut maintenir l'inspiration. On observe. Et juste comme on accepte, on va relâcher. Et là, on laisse aller en expirant. pourrez l'essayer. Ça marche avec le souffle, tout comme ça va fonctionner juste comme étape de base pour travailler. Donc, je répète que ça ne doit pas être considéré comme... Ça ne doit pas être considéré comme une malédiction d'être hypersensible. Et si, dans votre enfance, dans votre éducation, ça a été perçu comme tel et ça a été mis de côté, si ça a été vu comme quelque chose de honteux, bien, c'est pas le cas. C'est très important que vous soyez fiers de votre hypersensibilité et que les gens qui vous entourent le reconnaissent comme une force. Si vous vous faites dire par votre entourage que c'est donc bien dérangeant que vous soyez hypersensible, vous pouvez bien sûr travailler sur comment vous vivez votre hypersensibilité. Donc, pour pas la dégager sur les autres nécessairement, mais c'est sûr qu'à un certain moment, si vous vous sentez vraiment vulnérable et submergé, ben vous n'aurez pas le choix de le laisser paraître aux autres. Donc, il y a toute une façon aussi de vivre avec ça. Et moi-même, je vous dis, je le découvre encore. Mais mon partenaire, mon amoureux, est tout à fait conscient de mon hypersensibilité depuis notre rencontre. J'ai été claire là-dessus que c'est quelque chose de super important pour moi d'accepter ça et de travailler avec ça. Donc, c'est important aussi de faire ça avec nos proches. C'est beau parce que quand on est hypersensible, on ressent toute la profondeur de la vie. Donc, on va ressentir les grandes joies, on va ressentir les connexions très fortes. Et justement, on a une force d'empathie qui est extraordinaire, qui peut nous permettre de faire une aide, en fait. On pourrait travailler en travail social, en psychologie, ou dans des disciplines comme moi qui sont moins des disciplines alternatives. Donc, il y a plein de façons de mettre ce don-là en œuvre. Quand vous allez accepter cet état-là, quand vous allez accueillir cet état-là, vous allez relaxer votre corps, vous allez prendre une grande inspiration. C'est vraiment de vous détendre. Ensuite, quand vous allez observer, je suis encore sur le site de Loner Wolf, vraiment accepter de ressentir purement l'émotion, sans la juger. Quoi elle ressemble, elle sonne comment, elle sent comment. Donc, d'arriver à trouver toutes les subtilités. Essayez d'utiliser vos sens pour construire une image tangible de ce que vous ressentez. Donc, on dit de se rappeler, d'observer les émotions et pas d'être attaché. Pas chercher à se dire « Ah, je suis comme ça, je me sens comme ça, ça vient de moi. » Donc, ça vous appartient pas. Faites juste observer, comme si vous étiez au cinéma. C'est sûr que c'est pas facile à faire, mais... Donc, d'écrire peut vous aider. Donc, on dit de voir l'émotion comme une vague, en fait. Donc, de laisser la vague passer. Et alors que vous observez l'émotion, juste l'accepter. Donc, on est à la troisième étape, de ne pas résister. Accepter cette émotion-là comme un visiteur dans le temple de votre corps. Je trouve ça très beau. Et bientôt, elle va quitter. Pas besoin d'avoir un restant. Donc, souvenez-vous de ça. Et ensuite, dans le release, qui est de laisser aller, comme vous avez accueilli, vous avez observé, vous avez accepté, vous allez sentir l'émotion dans tout le relâchement, vous allez ressentir la paix, vous allez la ressentir se dissiper. Ça se peut qu'une émotion très intense revienne. Laissez pas ça vous stresser. Recommencez les étapes encore, autant que vous en avez besoin. Donc, c'est une technique qui doit se pratiquer comme une méditation, en fait. Donc, moment par moment, on observe avec le souffle, justement. Donc, vous pourrez le faire en focusant vraiment sur la respiration. Vous pourrez le faire en marchant à l'extérieur, en écoutant de la musique. Il y a plein de façons de le faire. Donc, rappelez-vous que le but de l'exercice, c'est de développer une pleine conscience et un non-attachement et une non-résistance aux émotions. Donc, de les laisser couler à l'intérieur de vous naturellement. Alors, comme je vous disais, si ça bloque trop, à ce moment-là, on peut faire du travail avec l'enfant intérieur. Je suis venue cette semaine à la réflexion que l'enfant intérieur, on aurait tendance à croire que c'est lié à des caprices, à des faiblesses, alors que pourtant, je pensais à... Parce qu'en anglais, c'est le inner child. Je pensais à inner child wisdom, donc la sagesse de l'enfant intérieur. Parce que quand on est dans un moment où on vit une émotion liée à un traumatisme ou à une grande peine qui a été vécue justement dans notre enfance, et qui s'est perpétré par la suite dans notre vie, ben la seule réponse se trouve dans l'enfant intérieur, dans sa sagesse à lui. C'est lui qui a la connaissance pour trouver la clé. C'est lui qui a la clé pour résoudre, pour ouvrir la porte et pour voir clair. Donc c'est super beau de redonner à cet enfant toute sa sagesse, de ne pas le considérer comme quelqu'un de faible dont on doit avoir honte ou que des caprices comme on s'est peut-être probablement fait dire enfant. Donc de retrouver toute la force de cet enfant-là. Et l'enfant, vous savez, c'est aussi le jeu, comme je disais quand je parlais de Jean-Marie Muller et de sa vision de la médiumnité tout à l'heure. L'enfant, c'est votre épanouissement, c'est votre joie, c'est votre respire, c'est votre légèreté. Cet enfant-là, c'est important de le valoriser et de vivre avec lui au quotidien. Donc, vous utilisez votre rationnel, vous utilisez votre ego à la limite comme un outil. Je voulais dire tout à l'heure, Jean-Marie Muller parle de l'importance de pacifier l'ego, donc il va toujours être là, mais on apprend à l'observer, on apprend à comprendre à quoi il sert et on le laisse pas décider nécessairement. Donc on va aller le pacifier. Donc on pourra faire d'autres épisodes au niveau des autres sens, peut-être au fur et à mesure que je vais les découvrir aussi. Mais pour l'instant, la clairsentience, pour moi, c'était important de j'espère vous apporter, j'espère vous avoir apporté des indices. Et je voulais dire aussi, ça c'est quelque chose que je ressens, donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété sont effectivement des personnes qui sont clairsentientes. Beaucoup de personnes qui vont avoir des troubles alimentaires, surtout d'hyperphagie, peuvent être clairsentientes, ou même des gens qui souffrent d'obésité. Parce que, en fait, l'anxiété peut être tout simplement le fait que les émotions restent prises à l'intérieur de nous. Donc si on ressent, on est hypersensible, ben ça peut mener à de l'anxiété, même de l'anxiété généralisée, ça peut mener à des crises de panique. L'hyperphagie, c'est une façon de d'étouffer, de remplir, essayer de mettre un voile sur ce qu'on vit. Donc ça peut aussi être lié à la clairsentience. Et même chose avec l'obésité, en fait, on dit que c'est une façon de se protéger de notre vulnérabilité. Donc encore une fois, de mettre un voile, et je juge pas personne là-dedans, là, je veux juste parler de comment je ressens ça, en fait. Si vous souffrez d'anxiété ou peu importe, peut-être juste prendre le temps d'observer votre sensibilité aux autres, de voir que finalement l'anxiété, c'est peut-être, ça vient peut-être pas de vous. Ça vient tout simplement de votre façon de ressentir la vie. Vous savez, ça vient du cœur. La clairsentience, c'est le chakra du cœur qui reçoit, qui ressent. Et pour aider, en fait, à ressentir, si vous acceptez et vous voulez peaufiner votre don, moi, j'ai vu toute une grande différence, en fait, avec le fait de porter un soutien-gorge ou non. Donc... c'est très habituel de porter un soutien-gorge quand on est une femme aujourd'hui, et surtout si on a des activités avec les gens. Mais moi, je vois une grande différence, en fait, quand j'en ai pas. Donc, quand je suis à la maison, maintenant, c'est très rare que je le porte, parce que ça me permet d'être plus ouverte. Et même quand j'étais dans des foules, c'était difficile à Montréal, par exemple, de ne pas avoir de soutien-gorge à certains moments, parce que, justement, c'est comme si je ressentais encore plus. Donc, je vois le soutien-gorge un peu comme un bouclier. Alors, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser à votre avantage ou non. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Même chose, toutes les substances comme le café, le sucre, vont changer notre état, vont faire en sorte qu'on va être moins éveillé aussi à tout ce qui se passe. Pour vous aider aussi au niveau de votre cœur, il y a des pierres qui vont aider. Moi, j'utilise beaucoup le quartz rose qui me permet d'équilibrer mon cœur, donc qui va aider aussi pour la guérison du cœur. Donc, encore une fois, j'espère vous avoir aidé un peu dans votre découverte de la clairsentience à travers cet épisode-ci. Je vous invite à vous joindre à la page de La Chamane sur Facebook. Je crée une communauté maintenant pour les gens qui veulent travailler leur don de médiumité. On va parler de clairsentience, on va parler des autres dons aussi, et ça va grossir au fur et à mesure que des gens vont s'y ajouter. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est un groupe que nous alimentons ensemble, donc c'est une opportunité que je vous offre. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.